Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Culture Flip, l'émission culturelle à 360 degrés. Vous êtes bien sur la Radio GACO, qui est une émission produite et réalisée par les étudiants du DUT Gestion Administrative et Commerciale de l'IUT du Littoral Côte d'Opale de Saint-Omer. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir plusieurs chroniqueurs, Evelyne, Clément, Louis et Sean. Présentez-nous en quelques mots vos chroniques.
Bonjour à tous, moi mon sujet se porte sur... les conséquences de la crise sanitaire actuellement sur les aides-soignants et les événements culturels.
Bonjour, merci de m'accueillir sur votre radio. Je vais vous présenter mon sujet qui va parler du réchauffement climatique et des impacts qu'il a sur la météo et sur la santé.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des big tech et comment casser leur monopole.
Bonjour à tous, merci Océane de me donner la parole. Donc moi mon sujet va porter sur les jeux vidéo.
Maintenant, c'est à ton tour, Emeline. Parle-nous de ta chronique.
Alors, mon premier sujet porte sur les aides-soignants. Nous savons tous que les aides-soignants sont les premiers à être en contact le plus rapidement avec le virus. Ils voient des personnes en réanimation avec des tuyaux partout, vous voyez la scène. Ce n'est pas très joyeux à voir. En plus de ça, ils ne sont pas très récompensés pour leur travail, malgré qu'ils sont là de jour comme de nuit. Ils se tordent en deux pour sauver tout le monde, pour que les personnes hospitalisées souffrent le moins possible. Ce qui les amène à faire un burn-out. Ils sont fatigués de cette situation, les heures supplémentaires qu'ils font ne sont même pas récompensées. En cette période de crise, le personnel de santé est plus que jamais sollicité et donc plus que jamais sujet à l'épuisement.
Que tu penses qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui sont en burn-out ?
Oui, près de 6 infirmiers sur 10 se disent proches d'un burn-out, épuisés par 10 mois de crise qui n'est pas terminée malheureusement. Alors que la deuxième vague déferle sur la France, le personnel soignant sonne la sonnette.
Et Emeline, est-ce que tu as des informations ou des reportages à propos des infirmiers ?
Nous avons vu sur Internet un reportage d'une infirmière qui s'appelle Camille, qui est infirmière au centre hospitalier de Valenciennes, qui depuis le début de la crise ne compte plus ses heures. Très fatiguée physiquement par la première vague, elle se dit vulnérable pour la deuxième. Le taux d'absentéisme est élevé depuis la première vague. Les personnels soignants réclament du renfort au niveau personnel que matériel.
Et Emeline, je voulais te poser la question. Quels ont été les événements marquants qui ont été annulés à cause de la pandémie ?
Ensuite, des événements ont été annulés pour éviter la propagation du virus, pour éviter que les personnes vulnérables soient infectées. Des concerts, des matchs, des salons ont été reportés ou annulés. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Comme par exemple le marathon de Paris qui devait réunir le 5 avril 60 000 participants a été reporté au 18 octobre. Ce sont parfois les organisateurs eux-mêmes qui annulent leur événement, soit par crainte de la propagation du virus, soit parce que les contraintes qui sont imposées par les municipalités sont trop strictes.
Est-ce que toi, en tant que chroniqueuse, mais encore en tant que citoyenne, est-ce que tu penses que cette situation va encore durer longtemps ?
À l'heure actuelle, nous sommes en confinement jusqu'au 1er décembre, mais tout le monde se doute que nous serons déconfinés ce jour-là. Enfin, pour mon dernier sujet, cela porte sur les nouvelles restrictions que le président de la République a annoncées. Ces dernières restrictions ont débuté le 27 octobre à partir de minuit. Plusieurs semaines de reconfinement ont été imposées.
Bon, Emeline, dis-nous quelles étaient les restrictions qui étaient mises en place avant les nouvelles mesures dites par le président ?
Avant ça, nous avions le couvre-feu. Nous devions rentrer pour 21h, sinon on était sanctionnés. Ces nouvelles restrictions sont prises pour freiner la propagation du virus. Les nouvelles mesures sont plus souples que le mois de mars dernier. Le gouvernement privilégie le travail à distance, mais certaines entreprises sont dans l'incapacité de travailler à distance. Il faut du présent à tout prix.
J'ai pu constater que, avec ce nouveau confinement, certains magasins étaient fermés, comme les magasins de jouets, mais encore les librairies. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Les petits magasins non nécessaires sont fermés, alors que dans les grandes surfaces, les rayons de vêtements, de jouets, de maquillage, de parfumerie sont ouverts. C'est pour cela que les petits commerçants sont manifestés pour fermer les rayons non essentiels dans les grandes surfaces. Donc à partir de mardi 3 novembre, tous les rayons de vêtements, de jouets, etc. sont fermés. Ce qui amène le mécontentement des commerçants de grandes surfaces et des consommateurs. La présence des coiffeurs a notamment fait l'objet d'un débat. Malgré les nouvelles restrictions, la propagation du virus reste intense, les contaminations restent importantes et le bilan dépasse désormais plus de 40 000 morts.
Emeline, dis-moi pourquoi autant de Français ont peur de passer les fêtes de fin d'année confinées ?
Personne ne veut à tout prix passer Noël en famille, ce qui est normal. La question des fêtes de Noël se pose pour pas mal de personnes. Près de 7 Français sur 10 sont prêts à passer Noël confinés. Alors que Disneyland à Paris a annoncé que le parc était fermé du 4 janvier au 12 février inclus, la population s'est enflammée. Le parc aurait-il des informations que nous n'aurions pas? Serait-il les prochaines dates du troisième confinement?
Et quel est ton avis sur ce sujet, Meline?
Mon avis sur ces sujets est partagé car les soignants devraient être plus reconnus dans leur travail. Ce n'est pas en les applaudissant à 20 heures qu'ils vont être récompensés pour leur courage. Pour les événements, je trouve que c'est nécessaire car cela évite que la situation est de plus en plus grave. Mais malheureusement, certaines personnes ne respectent pas les restrictions, continuent à faire des soirées entre copains et des repas.
Merci Méline de nous avoir parlé de ces sujets qui sont vraiment importants en ce moment. Maintenant, passons à la chronique de Clément. Alors Clément, de quoi vas-tu nous parler?
Nous allons voir quelles conséquences engendre le réchauffement climatique sur la météo. En effet, il faut savoir que ce dernier peut créer des modifications météorologiques. Nous allons voir quelles conséquences engendre le réchauffement climatique sur la météo. En effet, il faut savoir que ce dernier peut créer des modifications météorologiques.
Alors Clément, peux-tu nous donner la plus haute température enregistrée dans le monde?
Oui, le record de canicule date de 2003, où les températures étaient d'une moyenne de 29,4 degrés à l'échelle mondiale. 35 000 personnes en sont décédées. Ce qui peut être dangereux dans cette situation, c'est la sécheresse. Cela peut provoquer un feu de forêt et pourrait même jusqu'à dévaster des habitations. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Australie.
Et peux-tu nous donner un bilan de cet événement?
Oui, le bilan fut très lourd. 10 millions brûlés, 2 500 habitations détruites, 1 milliard d'animaux qui ont péri et 33 personnes qui ont perdu la vie. Ça faisait 30 ans que les incendies n'avaient pas été aussi violents et incontrôlables. La hausse de température peut également engendrer un rôle économique, puisque les stations de ski en hiver, surtout dans les Alpes françaises, sont obligées d'utiliser de la neige artificielle. Cela représente donc un certain coût, puisque les machines doivent être entretenues. Depuis les années 70, nous pouvons observer une augmentation de cette neige artificielle. Avec la fonte des glaces, l'augmentation de l'eau peut avoir de gros impacts sur les espèces animalières, mais également sur l'homme. Certains lieux sont déjà submergés par la montée des eaux et l'être humain est donc contraint de devoir migrer pour pouvoir éviter ce phénomène.
Et est-ce que tu peux nous expliquer quel impact le réchauffement climatique peut apporter sur notre santé?
Des scientifiques ont prouvé que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté par l'apparition des vagues de chaleur. Les effets les plus courants sont l'hyperthermie. Elle peut causer la mort si elle n'est pas traitée à temps. C'est la même chose pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. Comme on a pu le voir, le phénomène d'augmentation des températures est donc plus problématique que le phénomène de diminution des températures.
Et Clément, dis-nous comment on peut remédier au réchauffement climatique?
Celui-ci est engendré par l'augmentation des gaz à effet de serre qui provient par exemple des véhicules ou encore des produits chimiques utilisés pour les élevages intensifs des animaux. Pour pouvoir faire diminuer ce taux de gaz à effet de serre, il serait judicieux d'être écologique.
Est-ce que Clément, tu sais dans quelles conditions nous allons vivre dans le futur à cause de notre impact écologique? Est-ce que nous allons avoir une vie qui va ressembler à celle que nous avons aujourd'hui ou est-ce qu'elle va être différente?
D'ici quelques années, il paraît que les conséquences seraient de plus en plus amplifiées dues à l'augmentation de la population sur la Terre et les nouveaux moyens techniques qui ne cessent d'évoluer si nous n'agissons pas maintenant. Voilà pour aujourd'hui.
Merci beaucoup Clément de nous avoir parlé de ce sujet. C'est vrai que l'écologie, c'est un sujet très important car nous vivons sur cette planète et il faut la protéger. D'après moi, je pense que chaque individu devrait faire un petit peu d'effort afin de préserver cette planète car nous en avons qu'une. Et c'est en faisant des petits gestes au quotidien, comme par exemple recycler ses affaires ou même ne pas laisser couler l'eau inutilement, que nous pouvons sauver cette planète. Je ne dis pas qu'on pourrait la sauver, mais juste on pourrait limiter les dégâts que nous, les êtres humains, nous faisons sur cette planète. Maintenant, je vais laisser la parole à Louis qui va nous parler de sa chronique.
Alors nous, comme j'ai dit, on va parler des big tech, donc du monopole des big tech.
Que font les big tech?
Donc le problème des big tech, c'est qu'elles décident à notre place. Elles décident de la circulation des informations, de ce qui va être mis en avant et de ce à quoi les utilisateurs auront accès, des informations qu'on pourra voir, de ce qui pourra nous être recommandé, donc comme des films ou des livres à acheter. Il faut savoir qu'il y a une loi Trust, mais c'est une loi qui est quand même assez vieille et qui en fait ne protège pas les données collectées par les GAFA, maintenant les Big Tech, même si Facebook a fait un effort depuis les dernières élections américaines, où ils font plus attention aux données collectées, et est-ce qu'il y a eu des soupçons de triche aux dernières élections américaines contre Donald Trump contre Barack Obama. Pareil aussi, si vous demandez OK Google, mets-moi les informations, c'est Google qui décide quelle station mettre ou quelle chaîne mettre. En fait, les GAFA décident place, on n'a plus de libre arbitre. Et c'est exactement pareil avec Amazon qui nous envoie des pubs sur des recherches que parfois nous n'avons pas encore écrites.
Et d'après toi, Louis, est-ce qu'on peut vivre sans les GAFA ?
Aujourd'hui, non, on ne peut pas vivre sans les GAFA, parce que sinon, il faudrait quitter Google, il faudrait quitter Amazon, Facebook, là où il y a tous nos amis, et ce serait un choix compliqué, et l'humain n'est pas fait pour vivre seul, parce que les GAFA sont aussi un moyen de regroupement. Pour ça, il faut un contrepoids, et donc seul l'État est capable de l'apporter. L'État doit pouvoir encadrer le comportement de ces entreprises, et donc l'objectif de la régulation est de ne pas donner plus de pouvoir aux États. Il ne faut pas que les États viennent à remplacer les big tech. En fait, il faut prendre le pouvoir des big tech et le redonner aux citoyens. La souveraineté numérique ne doit pas être celle de l'État, mais celle des individus, afin qu'ils puissent décider de leur futur, parce que c'est quand même important.
Je tiens à te remercier, Louis. Merci de nous avoir parlé de ce sujet. Maintenant, nous allons passer à la chronique de Sean. Alors Sean, de quoi vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler des jeux vidéo, plus précisément l'impact sur les consommateurs et les bénéfices que peut engendrer les jeux vidéo. Donc en faisant référence à ce personnage de film qui prolonge son existence chez ses parents sans souhait de les quitter, l'idée est de parler de ces joueurs de jeux en ligne plus âgés. C'est ce dont Elisabeth Rosset veut nous confier sur les personnes dites Tanguy. En effet, au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où chaque génération qui se suit évoluera avec les avancées technologiques. Mais nous pensions tous et toutes que les jeux vidéo ne font évoluer au cours des années et touchent qu'une partie des consommateurs qui sont les jeunes. Cependant, une grosse partie est victime impactée par les jeux vidéo.
Mais Sean, je me pose une question. Quel âge ont les gens qui sont le plus impactés par les jeux vidéo en général ?
Ces personnes étant victimes de jeux vidéo sont âgées de 25 à 55 ans et sont considérées Tanguy. Ils représentent moins d'un cinquième des situations préoccupantes des jeux vidéo en ligne.
Tu viens d'évoquer le terme Tanguy. Nous voudrions savoir à quoi cela fait référence et qu'est-ce que ça veut dire.
Être un Tanguy se résume par le fait de prédominer des traits phobiques pour lesquels un investissement dans les jeux vidéo permet de ne pas se confronter au monde extérieur et aux autres, mais surtout à soi-même. De plus, ils pensent que le domaine des jeux vidéo est un espace où tout est contrôlable par eux-mêmes. Pour être plus précis, nous pouvons prendre l'exemple d'un individu qui est âgé de 29 ans, ayant vécu X choses dans sa vie, dans sa jeunesse, il se réfugie dans les jeux vidéo. Cependant, son père acceptant pas la situation, l'ignore contrairement à sa mère, que l'individu caractérise comme envahissante. Elle prend des nouvelles constamment, plusieurs fois par jour. Mais sa mère, dans le couple, serait une femme soumise, angoissée, envahie par l'autorité du père. Par conséquent, cet individu décide de fuir, et donc se réfugie en plus dans les jeux vidéo et dans les études. Mais ses études prennent un mauvais tournant, puisqu'il décide de ne pas se rendre à des rendez-vous importants pour jouer aux jeux vidéo. Dans cette continuité, il ne sort plus de chez lui, il ne mange plus, il ne se lave plus. Donc cet exemple ici montre bien que les jeux vidéo peuvent emporter une certaine catégorie d'individus jusqu'à l'hospitalisation où un sevrage ne sera nécessaire.
Sean, est-ce que tu peux me dire quels sont les trois fondamentaux qu'un Tanguy ne possède pas ?
L'autonomie, la maturité et l'intimité sont les trois fondamentaux que les Tanguys n'ont pas, contrairement aux autres catégories de consommateurs. Comme nous le savions tous et toutes, ce qui est répété plus que souvent, les jeunes d'aujourd'hui appartiennent à la génération des médias, c'est-à-dire tout ce qui est téléphone, tablette, jeux vidéo, envahissant leur quotidien, mais surtout impacter leur temps libre, leur gestion d'études et familiale. Ce qui inquiète les parents, mais aussi les spécialistes, n'est pas le temps passé sur les jeux vidéo, mais ce qui les frustre réellement, c'est la violence qui peut régner davantage dans certains jeux. Plusieurs études démontrent que dans la majorité des jeux vidéo et parmi les plus populaires, ils comportent tous des scènes violentes. Ces jeux qui comportent des scènes qui inquiètent sincèrement les spécialistes promulguent des valeurs spécifiques qui vont outre les règles sociales mises en vigueur. Donc la question des effets des jeux vidéo dits JVV se pose sur la personnalité, mais surtout sur le développement des conduites agressives, sur la désensibilisation émotionnelle où les jeunes peuvent être exposés. En effet, une de leurs conséquences est qu'ils peuvent servir de stimulus à une personne ayant décidé de passer à l'acte. Malgré que les jeux vidéo sont consommés pour divertir les individus, certains sont victimes des effets que ceux-ci leur procurent. Mais bien que les jeux sont logiquement dans les normes, certains dépassent les règles sociales et peuvent engendrer des conséquences émotionnelles et morales et voire mettre en danger autrui si un individu passe à l'acte.
Dis-moi pourquoi actuellement, en 2020, les jeux sont aussi destinés aux adolescents et aux enfants, alors qu'auparavant, les jeux étaient destinés que aux personnes adultes.
En effet, en 2015, 74% des Français de 10 à 65 ans ont joué occasionnellement aux jeux vidéo. Cela prend une ampleur importante. De plus, avec les années qui passent, les nouveaux médias apparaissent. Les jeux peuvent attirer tout type de consommateurs, comme ceux qui ont mis beaucoup d'argent, mais d'autres consommateurs qui, eux, sont attirés par les jeux, qui sont gratuits et trouver le meilleur bénéfice. Donc, pour un jeu de la part d'une marque, c'est que le consommateur trouve son intérêt. Pour ne pas oublier notre problématique, le bénéfice des jeux vidéo peut venir de plusieurs domaines. Celui du budget, pour faire des jeux vidéo, il faut être prêt à investir. Si le domaine des jeux est dominé par Ubisoft, c'est pour une raison très simple, car ils sont prêts à investir entre 50 et 120 millions d'euros pour un jeu. Le problème est que les entreprises se spécialisant dans les jeux vidéo publicitaires dépensent au maximum 50 millions d'euros, mais pour un jeu de qualité médiocre, selon Jean-Baptiste Fleury. Le deuxième bénéfice énoncé juste avant est la qualité qui doit être la mieux possible pour que le consommateur y trouve un intérêt. Permettant, c'est que le consommateur complètement captivé par les émotions que le jeu lui procure, et cela permettra la réussite pour l'entreprise. Pour conclure sur ce sujet, les jeux vidéo peuvent créer beaucoup de bénéfices pour les entreprises qui y investissent. Cependant, la diversité des jeux, c'est-à-dire dans quel domaine ils sont placés, peuvent impacter certaines catégories d'individus, comme les tanguis qui ont été évoqués dans ce sujet, ainsi que les jeux violents qui peuvent heurter les émotions des jeunes, voire des consommateurs en général.
Merci Sean de nous avoir parlé de ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que c'est une bonne chose de faire de la prévention. Ça permet d'aider les jeunes.
D'aider les jeunes à ne pas
Oui,
trop jouer.
et vu qu'il y a de plus en plus de petits qui sont maintenant sur les réseaux sociaux et qui jouent à des jeux violents, c'est très responsable.
C'est vrai. Et Louis, qu'est-ce que tu en penses?
Moi qui suis quand même plutôt fan de jeux vidéo, je suis forcément d'accord avec ça, mais il y a aussi des aspects positifs aux jeux vidéo. Quand on joue à un jeu vidéo, on arrive mieux à s'orienter dans l'espace, on arrive mieux à des fois à comprendre le monde, et tout ça rien qu'en jouant aux jeux vidéo. Après, c'est sûr, il y a des effets néfastes et on ne peut pas les nier.
Donc en effet, en ayant travaillé sur le sujet, mais non évoqué les aspects positifs, on peut aussi dire que les jeux vidéo sont positifs sur le fait que les individus, grâce aux jeux vidéo, peuvent en faire leur métier. Comme Louis, tu peux nous en parler de
Ah
l'e-sport.
ouais, compétition d'e-sport, donc d'un peu près tous les jeux qui peuvent exister, donc FIFA, Call of, il y a aussi du League of Legends, il y a du League Rocket, tout ça, et on peut voir que ces joueurs, ben voilà, ils sont entourés de bonnes équipes, et pas pour autant qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils ont des déficients psychologiques. En fait, il faut jouer aux jeux vidéo avec modération et être bien entouré.
Maintenant, nous allons passer à la chronique d'Océane. Elle va nous parler de la place des femmes dans l'industrie cinématographique.
Effectivement, Emeline, aujourd'hui, je vais vous parler de la place des femmes dans l'industrie cinématographique et pourquoi il y a autant de sexisme et d'inégalités envers les femmes dans ce milieu. Je pose également la question pourquoi aujourd'hui il y a très peu de réalisatrices. Afin d'argumenter mes propos, j'ai lu une œuvre de l'autrice Brigitte Rollet qui s'intitule Femmes et cinéma, sois belle et tais-toi, où on peut constater qu'au commencement du cinéma, certaines femmes étaient réalisatrices. Et à la fin du 19e siècle, la première cinéaste au monde employée chez Gaumont s'appelait Alice Guy. C'était une femme qui pouvait troquer de temps en temps sa casquette de secrétaire pour celle de réalisatrice, ce qui est plus possible ou très peu possible aujourd'hui. Afin de faire connaître les caméras que vendait Gaumont, elle inventait des petites scénettes mises en scène et en images par ses soins. Et cette femme mènera une carrière remarquable aux États-Unis où elle fut la première femme au monde à créer une maison de production et elle possédait également un studio. Ensuite, j'ai pu constater qu'à l'époque en France, les premiers vrais studios qui émergent sur Paris attribuent les métiers en fonction du sexe. Les femmes étaient déjà nombreuses à être employées dans ce milieu, mais elles étaient juste employées au développement des pellicules photo afin de couper et coller les bouts de pellicule. Par conséquent, ce travail fut dangereux pour leur santé car elles manipulaient des produits chimiques et elles étaient mal rémunérées.
Est-ce que c'était le cas aussi dans d'autres pays?
Ça a été le cas dans plusieurs pays, mais là, je me suis surtout renseignée sur le cas des États-Unis. Alors, ce n'était pas du tout la même chose aux États-Unis. Contrairement en France, car les débuts du cinéma sont marqués par une implication des femmes à tous les niveaux, comme par exemple dans la production, dans la réalisation, mais encore dans le scénario. Aux États-Unis, il y a eu de nombreuses femmes qui sont devenues scénaristes, comme Louise Weber, June Mathis, Frances Marion, qui est la première femme à recevoir un Oscar. À Hollywood, beaucoup de femmes occupent des postes clés, surtout au montage où on reconnaît leur talent et leur savoir-faire. Les productrices étaient également nombreuses. Ces postes sont aujourd'hui rarement occupés par des femmes, car cette répartition genrée répond à la fonction d'usine de rêve, d'incarner Hollywood. C'est de là qu'on comprend la difficulté des femmes à devenir réalisatrices aujourd'hui.
Aujourd'hui, en 2020, comment les femmes sont représentées dans ce milieu ?
Alors aujourd'hui, dans l'industrie du cinéma, les femmes sont encore sous-représentées en tant qu'actrices, mais aussi dans l'ensemble des métiers. Selon un rapport de l'Observatoire européen de l'audiovisuel entre 2003 et 2012, seuls 16,3% des films européens ont été réalisés par des femmes. Ce pourcentage démontre que certains métiers du cinéma, comme celui de réalisatrice, sont moins occupés par des femmes que par des hommes. Et finalement, j'ai pu constater que ces femmes sont aussi victimes d'inégalités salariales. Selon une étude du Centre national du cinéma, en moyenne, une réalisatrice de long métrage a un salaire horaire inférieur à 42% à celui de ses collègues masculins.
Suite à tout ce que tu nous as dit, nous voudrions savoir comment les femmes et les institutions font-elles pour réguler ces inégalités ?
Alors tout d'abord, les femmes en ont eu marre de toutes ces inégalités, donc elles ont décidé de se rebeller en quelque sorte. Alors tout a commencé en octobre 2007, où l'actrice et productrice Alyssa Milano relance l'hashtag MeToo. Ce hashtag a été créé afin de mettre en lumière le sexisme ordinaire dans l'industrie du cinéma. Ce mouvement marque le début de la libération et de l'écoute de la parole des femmes dans ce milieu. Ce hashtag a créé beaucoup de controverses, notamment à cause de l'affaire du producteur de cinéma Harvey Weinstein, accusé de harcèlement et d'agression sexuelle envers des actrices.
Est-ce que c'est uniquement dans le milieu du cinéma que les femmes sont victimes d'inégalités ?
Alors non, ce n'est pas uniquement dans le milieu du cinéma qu'il y a autant de sexisme. Suite à ce mouvement, on peut constater que ce n'est pas uniquement dans le milieu du cinéma que cela existe. Il y a également dans le milieu des médias où deux journalistes, Jessica Bennett et Ana Regina Aguilar, ont créé un mouvement appelé Gender Editor qui vise à veiller à une plus juste représentation des femmes dans les médias. En plus d'être sous-représentées dans les médias, elles sont aussi victimes d'inégalités salariales. Par exemple, en 2018, au Festival de Cannes, 82 femmes ont monté les marches afin de lancer un appel à l'égalité salariale. Ce nombre signifie les 82 femmes réalisatrices à avoir monté les marches depuis la création du festival contre 1688 hommes. Finalement, afin de lutter contre ces inégalités salariales, l'Académie des Césars renforce la parité, la diversité et la représentativité en mettant l'accent sur la démocratie interne et la parité homme-femme. C'est-à-dire qu'elle met en place de nouveaux statuts comportant une mesure phare. La présidence des Césars sera désormais assurée par un tandem des deux sexes et la parité intégrale devra aussi être strictement respectée dans l'Assemblée générale de l'association, son conseil général, son conseil d'administration et son bureau. Et pour finir, je pense que malgré les améliorations, les femmes devraient tout autant représenter que les hommes dans cette industrie. Car les femmes ont aussi cette capacité et elles ont aussi le droit de créer. Donc je ne trouve pas ça normal qu'elles soient sous-représentées et mise de côté par rapport aux réalisations des hommes. Voilà, c'est la fin de notre émission radio. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ces chroniques vous ont plu. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiogaco.fr et n'hésitez pas à réagir sur notre fil Twitter Gaco Studio. À très bientôt.